Les Canuts, première partie, chapitre 6. Pour la quatrième fois, Madame Denegris était venue sans bruit entrouvrir la porte. Mais dans l'obscurité, elle n'avait entendu qu'un long soupir, coupé de sanglots étouffés. Marius n'était donc pas rentré. Sa mère pleurait toujours. Il y avait de quoi, pauvre femme. Depuis près de 2 heures, la fusillade avait cessé sur tous les points de la ville. Et un malheur était bien à craindre. Ne sachant quelle consolation donner à sa voisine, Madame Denegris prit le parti de se retirer et referma la porte avec précaution. Au grincement du loqueteau, la mère eut un sursaut, mais aussitôt elle comprit. C'était encore Madame Denegris qui n'osait même plus entrer. « Ah, mon pauvre Marius ! Jacquemin, pourquoi ne l'as-tu pas ramené avec toi hier soir ?» Le père répondit doucement, « Un peu de patience. Marius reviendrait, il en était sûr. » Pourtant, lui aussi commençait à perdre espoir. Pour faire diversion, il reprit, « Allume donc la lampe, on n'y voit plus. » Les deux vieux, après une nuit sans sommeil, brisés d'émotion et d'inquiétude, avaient passé tout le jour au coin du poêle, pendant que, de la ville, leur arrivait le bruit des feux de fil et des coups de canon. Après de longs silences, ils avaient parlé de leur fils. Le père avait essayé de justifier sa conduite. Bien sûr, Marius eût mieux fait de demeurer auprès d'eux, au lieu d'aller courir le risque d'attraper un mauvais coup. Mais lui-même, à son âge, en eût peut-être fait autant. La mère n'avait cessé de gémir. Il n'avait que ce fils. Jamais il ne leur avait fait de chagrin. Il vivait à la maison, sortait peu, les entourait de son affection et leur laissait tout le produit de son travail. Que deviendrait-il, pauvre vieux, si Marius était tué? Et, sur ses joues blêmes de femme épuisée, coulaient de grosses larmes, qu'elle essuyait à la dérobée, pour ne pas affliger son pauvre homme. Zabé était descendu un instant, s'informer de leur santé, leur demander s'ils avaient besoin de lui. Mais il l'avait remercié, et, discrètement, il était remonté dans sa mansarde. La nuit tombée, ils étaient toujours là, près du poêle, sans lumière. Sur la remarque de Jacquemin, la mère se levait pour allumer la lampe. Brusquement, la porte s'ouvrit. Marius parut sur le seuil. Elle poussa un cri et se précipita vers son fils. Convulsivement, elle lui passa les bras autour du cou et, dans une longue étreinte, le couvrit de baisers. « Allons, as-tu fini ? Me le laisseras-tu embrasser à mon tour ?» dit le père grossissant sa voix. Enfin, elle le laissa aller. Et tandis que le père faisait de la lumière, ne pouvant garder sa joie pour elle seule, elle s'élança sur le palier. À grands cris, de sa voix enrouée, elle appela Zabé, Madame Denegris et Louise. Marius était rentré. Le bossu descendit 4 à 4 avec un grand fracas de galoches. Les deux femmes accoururent. « Ah ! » s'écria Madame Denegris. « Vous voyez que la Sainte Vierge vous a écouté, Madame Jacquemin ?»« Oui, oui !» dit la mère, recommençant à embrasser Marius. « Allons, allons !» reprit le père. « Tu l'embrasseras demain !» « Lave-nous des verres et apporte la bouteille d'arquebuse. Il faut que tout le monde trinque à la santé du revenant. » Joyeusement, il avança des chaises autour de la table. Quand on eut trinqué, la mère vint s'asseoir tout près de Marius. Elle le couvait des yeux, lui adressait question sur question, souvent sans attendre la réponse. Comme il avait la figure et les mains noires. Où avait-il couché? Qu'avait-il pu manger depuis 2 jours? Et, en parlant, elle pleurait et riait à la fois. « Tu vois bien, mère, disait-il, que je n'en suis pas mort. » Mais, tout de suite, elle voulut lui faire prendre quelque chose. Pendant qu'ils finissaient la soupe de leur repas, elle lui fit cuire des œufs au beurre. Tout en mangeant, Marius expliquait les événements de la journée, racontait les épisodes, donnait des détails. « Ces hommes !» s'écria Madame Denegris avec admiration. « Il faut tout de même avoir du courage !» Louise approuva d'un signe. Sa figure rieuse était devenue toute grave. Du coin de l'œil, elle regardait Marius. Il lui semblait un héros. Elle ne pouvait comprendre qu'il eût fait tant de choses. Zabé, lui, parlait en philosophe. Tout ça, c'était bien beau, mais savait-on où ça mènerait? Quand Marius eut fini de parler, ce fut au tour des autres de lui apprendre les petits faits du quartier. Madame Denegris raconta une aventure arrivée à son cousin Barthélemy, monteur de métier, rue des Tables Claudiennes. La veille, comme on avait tiré de sa maison, les soldats avaient posé un pétard au bas de l'escalier et y avaient mis le feu. Patatras, toute la montée avait débaroulé. Et le pauvre homme, prisonnier là-haut, à son 5e, était obligé de se faire monter du pain par une corde. C'était comme la Péco, la grosse tordeuse d'en face, qui avait accouché de frayeur au bruit de la fusillade. On n'avait pas pu aller chercher la sage-femme. La barricade bouchait la grande côte et les balles pleuvaient comme grêle. Ça ne faisait-il pas pitié? Et Eugène? Demanda Marius. Ah, le petit monstre! S'écria la voisine. Elle avait dû le fermer à clé pour l'empêcher de sortir. Il voulait à toute force aller voir. Il se serait fait tuer, bien sûr. Toute la journée, il avait pleuré de dépit et, de lassitude, s'était endormi. « As-tu vu Bresner par là-bas ? » demanda le père. Marius ne l'avait pas vu. Le vieux ne s'en étonna pas. Bresner n'était bon qu'à exciter les autres. Dans le quartier, il y avait bien des femmes qui n'avaient pas vu leurs hommes depuis 2 jours et qui ne les reverraient plus. C'est à ce mauvais bougre qu'elle devrait aller les réclamer. « Allons, c'est tard, » interrompit la mère. « Va te coucher, Marius, tu dois avoir sommeil. » Lui ne voulait pas se coucher, mais il était venu avec l'intention de ne pas s'arrêter, seulement pour leur dire bonsoir et les rassurer. Ce serait lâche de dormir pendant que les camarades couraient peut-être des dangers. « Ah, je ne veux pas que tu y retournes. Mon Marius, tu ne nous désobéiras pas. » Sa mère le suppliait. Il consentit à rester jusqu'à minuit. Les deux voisines et Zabé se retirèrent. Alors, il se jeta tout habillé sur son lit. Le père lui avait promis de le secouer à l'heure. Il s'endormit tranquille. Les vieux se couchèrent à leur tour. Ils étaient moins inquiets et reprenaient confiance. À minuit, lasse d'avoir trop pleuré, la mère dormait profondément. Le père se leva sans bruit. Pieds nus, sans lumière, il alla éveiller son fils. Marius sauta à bas du lit, prit son chapeau et son fusil, et, à pas de loup, se dirigea vers la porte. Son père l'embrassa et lui recommanda de ne pas s'exposer inutilement. Le jeune homme descendit avec précaution. La lune s'était levée. Il prit la rue Humbert-Colomès, se dirigeant vers la barrière de Saint-Clair, dont Buisson avait confié la garde à sa bande. On n'attendait pas d'attaque de ce côté-là. Le chef avait assigné ce poste tranquille aux hommes qui, la nuit précédente, avaient été de faction aux pierres plantées. Le quartier était calme. Marius avait traversé la côte Saint-Sébastien et s'engageait dans la rue des Fantasques. Là, il entendit un bruit qui semblait partir du quai Saint-Clair. On eût dit des canons roulant sur le pavé. Il s'arrêta et se jeta à terre. L'oreille contre le sol, retenant son souffle, il écouta. Il ne s'était pas trompé. C'était l'artillerie qui défilait sur le quai. En même temps, du côté des terreaux, il percevait distinctement un piétinement continu de fer, un bruit de cavaliers en marche. Il se releva et pressa le pas. Que se passait-il? Pourtant, une surprise n'était pas possible. Soudain, de la barrière Saint-Clair, un coup de feu isolé retentit. C'était sans doute le signal d'alarme donné par la sentinelle. Aussitôt, éclatant avec fracas, un feu de fil répondit. On attaquait. Marius s'élança. Il s'engouffra, pour abréger la distance, dans l'escalier de la maison aux 14 étages. Déjà, au-dessous de lui, sur le quai, le canon grondait, battant en brèche la barricade adossée à la barrière. Il atteignit rapidement les dernières marches. De l'allée, il déboucha sur la place des pénitents de la Croix, qu'il traversa en courant. Rasant les murs, il se dirigeait vers la barrière, quand, à quelques mètres de lui, un boulet vint s'enfoncer violemment dans une vieille bâtisse et le couvrit de plâtras. « Par ici !» lui cria une voix d'homme. Les boulets et les balles balayaient le quai. On ne pouvait plus s'y risquer sans danger de mort. Marius courut du côté où on l'appelait. Il vit un ouvrier tout noir de charbon. « Vous voulez donc vous faire tuer ?» lui dit l'homme. « Allons, venez avec moi !» Il l'entraîna dans une allée de traverse et le fit monter chez lui, cour d'Herbouville, au quatrième. Chemin faisant, il expliqua qu'il était chauffeur mécanicien et quittait régulièrement à minuit son service pour rentrer se coucher. Tout à l'heure, passant au terreau, par curiosité, il s'était mêlé aux gardes nationaux et avait entendu dire que les autorités civiles avaient décidé le général Roguet à quitter sur-le-champ la ville avec les troupes. La clarté de la nuit devait faciliter l'exécution de ce projet. On voulait éviter une nouvelle effusion de sang. Alors lui avait couru pour venir donner l'alarme. Mais, arrêté plusieurs fois par des troupes qui barraient les rues, il avait dû prendre des détours et n'était pas arrivé à temps. Le chauffeur ouvrit la fenêtre. Miroitant sous la lune, le Rhône coulait à plein bord, déroulant à perte de vue son immense ruban d'argent, coupé par les silhouettes noires des ponts et taché, au-dessous de la maison, par les carcasses vermoulues de vieux moulins aux toits verdis, amarrés à la rive. Là-bas, vers l'entrée du pont Morand, les baïonnettes des soldats étincelaient. Des cris « aux armes !» s'entendaient, répétés de toutes parts. Et le tocsin recommençait à sonner aux églises des faubourgs, dans le crépitement de la fusillade et le tonnerre du canon. Marius trouvait cette lutte insensée. On aurait dû laisser passer les troupes. Elles n'attaquaient plus. Elles battaient en retraite et abandonnaient la ville. Pourquoi recommencer la lutte? Elles n'étaient plus à redouter puisqu'elles fuyaient. Ah, je ne tirerai pas, pour sûr. Il y a eu assez de sang versé, grand Dieu. Oui, répondit le chauffeur. À quoi bon? C'est bête ce qu'ils font là. À gauche, une centaine d'insurgés défendaient la barrière. Abrités derrière des amas de planches et de madriers, ils se battaient pour se battre, inutilement. Une batterie entière tirait sur eux. À chaque décharge, une partie de la mitraille atteignait la barricade, s'enfonçant dans le bois avec un bruit sourd et la dégradant peu à peu. Le reste, passant par-dessus, allait faucher les branches des tilleuls. Une dernière volée, mieux dirigée, vint nettoyer la place, lançant au loin des éclats de pierre et des morceaux de planches, jonchant la chaussée de morts et de blessés. Une bordée d'imprécations retentit. En toute hâte, les survivants se réfugièrent dans une maison et en barricadèrent la porte. Le passage était libre. On entendit le commandement. « En avant, marche !» Et une compagnie de ligne, baïonnette au canon, se lança au pas de course. Aussitôt, le défilé commença. En tête, roulaient les canons chauds encore, avec leurs caissons. Puis, venait un bataillon de ligne et le groupe des généraux. De leurs fenêtres, les deux hommes distinguèrent la haute taille et la belle prestance du général Fleury. Le lieutenant-général Roguet, malade et soutenu à cheval par deux dragons, marchait un peu isolé. Lorsqu'il passa devant la maison, un jeune officier d'ordonnance, qui chevauchait près de lui, dit assez haut. « Comment vous sentez-vous de vos douleurs, mon général ?»«
Je suis bien mieux ici que dans les salons de l'hôtel de ville. Au moins je respire. L'odeur de la poudre me rend la vie. »
Au même instant, un coup de feu, parti d'une maison voisine, vint blesser au bras le jeune officier, qui sursauta sur sa selle. Plusieurs détonations se succédèrent. On commençait à tirer des fenêtres. « Les lâches !» fit Marius. Alors, les troupes précipitèrent leur marche. Après la gendarmerie, qui faisait escorte au général, le reste de la ligne défila. Puis, 200 ou 300 gardes nationaux, trop compromis pour rester dans la ville. Enfin, à l'arrière-garde, les 3 escadrons du 12e dragon, fort éprouvés, protégeaient la retraite et chargeaient par peloton les insurgés qui les harcelaient en queue. Tout le long du cours d'Herbouville, les émeutiers paraissaient aux fenêtres. Ceux qui avaient des fusils tiraient à coup sûr dans le tas. Les autres, dans leur rage, jetaient tout ce qui leur tombait sous la main. Les poids de leur métier, des morceaux de charpente, des mécaniques entières écrasant des soldats, assommant des chevaux. Et, montés sur les toits à peine vêtus, des hommes, des femmes, des enfants, criblaient les troupes d'une grêle de tuiles. Cependant, la colonne ne s'arrêtait pas. De temps en temps, une dizaine de soldats faisaient halte et tiraient sur les fenêtres. Puis, au pas de course, reprenaient leur rang. Atteinte par une balle, sur un toit, une femme en camisole roula le long du plan incliné, tomba dans l'espace et vint s'écraser sur le pavé. À leur tour, les dragons défilèrent sous les projectiles qui pleuvaient et disparurent au galop. Bientôt, on n'entendit plus que le bruit des fers de leurs chevaux s'éloignant dans la nuit. Mais plus loin, le faubourg de Bresse se soulevait sur le passage des troupes. Dans la nuit claire, on distingua des clameurs et des coups de feu. « La triste nuit !» dit à mi-voix Marius, prêtant l'oreille et comme perdu dans ses réflexions. « Quelle abominable tuerie !» Tout à coup, le chauffeur lâcha un formidable juron et, secouant Marius, « Ah, les crapules ! Les voyez-vous ? Les entendez-vous ? Là, en bas !» Du doigt, il montrait le quai. Aussitôt après le passage des troupes, des hommes et des femmes étaient descendus. D'autres, au bruit de la fusillade, étaient accourus de la Guillotière et des Brotteaux par le pont Morand. Et tout de suite, ils s'étaient mis à jeter au Rhône les cadavres des soldats.
des mégères, des poitraillés, le chignon en broussailles, excité par la vue du sang, juraient comme des damnés autour des victimes et proposaient de noyer aussi les blessés. Une carpière brandissait un large couteau à vider les poissons. Déboutonnant la veste d'un artilleur, elle lui plongea dans le ventre.
« Tiens » hurla-t-elle. « Crève donc, canaille !»«
Ah, oh, les crapules !» répéta le chauffeur. « Faut que ça finisse !»« Oui, en voilà trop !» Le chauffeur décrocha un pistolet chargé qui pendait au mur. Puis, les deux hommes se précipitèrent dans l'escalier. Arrivés sur le quai, ils se jetèrent au milieu du groupe hideux de ces misérables et leur arrachèrent violemment le cadavre de l'artilleur qu'ils se disputaient. Bravement, Marius menaça de brûler la cervelle au premier qui toucherait à un mort ou à un blessé. Les soldats n'étaient-ils pas des enfants du peuple? N'étaient-ils pas tombés en faisant leur devoir? Ils méritaient une sépulture de chrétiens. Lui ne laisserait pas profaner leur corps. Les bandits, excités par les femmes, qui demandaient à grands cris de quel droit ce gonne venait les embêter, entouraient les deux hommes, les pressaient, prêts à leur faire un mauvais parti. Tout à coup, fendant le groupe, un officier se dressa au milieu d'eux.
« Au large !»
ordonna-t-il. Le docteur Chéreau, aide-major au 66e de ligne, avait aidé un soldat blessé à se traîner jusqu'au moulin champ, l'avait pensé et n'avait songé à la retraite qu'après le départ de la colonne. Aux vociférations des misérables, il était sorti du moulin et accourait protéger les blessés. En même temps, une bande armée déboucha au pas de course de la place Saint-Clair. C'était Martinon et Diano à la tête d'une centaine d'hommes. À leur approche, les oiseaux de proie s'effarouchèrent et prirent la fuite. L'ancien capitaine de la garde nationale, au bruit du combat, avait entraîné ses hommes. Il ne savait rien. Que s'était-il donc passé? Marius répondit. Parbleu, les ouvriers étaient maîtres de la ville. Il n'y avait plus un soldat à Lyon. Et, très animé, il raconta les épisodes auquel il venait d'assister, depuis le premier coup de feu de la sentinelle jusqu'à l'arrivée des bandits. « Alors, c'est à nous de faire la police, » dit Martinon. « À l'ouvrage, mes amis. » Il chargea 20 hommes de parcourir le quai et d'y rétablir l'ordre. Le reste des siens se mirent à relever les morts et les blessés qu'on transportait à mesure dans la salle gaillée où l'on étala de la paille pour les coucher. Le docteur Chéreau s'empressait autour des malheureux. Bientôt, il ne resta plus aucune victime sur le quai. Martinon avait placé des sentinelles à la porte de l'ambulance et un poste de 10 hommes dans la maison Nivière, où se trouvaient les bureaux de la recette générale. Des patrouilles avaient sillonné les rues environnantes et, les unes après les autres, venaient rendre compte à leur chef. Le calme était rétabli partout. Maintenant, mes amis, dit Martinon, il nous reste un devoir à remplir. C'est aller nous constituer gardiens de l'hôtel de ville. Qu'en pensez-vous, Diano? Assurément, puisque les autorités militaires n'y sont plus, c'est à nous de maintenir l'ordre et d'empêcher les canailles de tenter un coup de main. Il faut faire prévenir tous les chefs de section. Toi, Marius, reprit Diano. Tu devrais aller chercher ton père. Ce ne sera pas trop de tous les bons citoyens pour contenir les fous et montrer à la population que les ouvriers ne veulent pas établir le régime de la terreur.
Oui, le père Jacquemin sera écouté, observa Martinon. Et, après sa courageuse conduite à l'égard du préfet, sa présence à l'hôtel de ville rassurera les esprits. Il faut aller le chercher, petit.
J'y vais. Où nous retrouverons-nous?
À l'hôtel de ville.